Progueurs, progueuses, ici vos gars du prog!
Alors bonjour, chers progueux et progueuses, et bienvenue à ce 59e épisode des gars du prog, bientôt 60, mais pour l'instant, je suis avec mon ami Phil pour parler d'un nouvel album aujourd'hui et d'un top 5. Ma foi, je crois qu'il va être épicé. Alors, comment ça va, mon Phil?
Ça va bien, ça va bien. Je sais pas à quel point ça va être épicé, ce top 5-là. Je suis pas aussi convaincu.
Je sais pas. Mais t'es... Aujourd'hui, en fait, on va vous parler du nouvel album de Akon Fauna qui est sorti dans les derniers mois. Et on va vous parler aussi de notre top 5 des meilleurs albums doubles, selon nous. Je pense, pour toi puis moi, Phil, c'est un sujet assez épicé parce qu'on aime les albums courts dans la vie. Puis on est pas des fans d'albums doubles. Mais je pense, en tout cas, dans mon cas, moi, il y a certains albums doubles qui m'ont marqué plus que d'autres et qui font partie de mes albums préférés dans l'univers. Je pense que c'est la même chose pour toi aussi, donc on va en parler. Mais sinon, toi, mon Phil, quoi de neuf au point de vue musical? Y a-tu des choses que tu as découvert récemment?
J'ai un collègue qui m'a partagé un groupe québécois nouveau qui vient de sortir leur premier EP. Puis je voulais t'en parler. Parce que c'est très bon. Puis deuxièmement, parce que ça vient chercher un peu une fibre en moi que j'avais un peu oubliée, qui date de mon fin cégep, début bac, qui est la musique un peu dream pop.
Ah, ben oui. Là, on parle de Men I Trust puis Ghostly Kisses et compagnie, là.
Ghostly Kisses, oui, mais plus rock un peu. Plus rock un peu. Je te dirais à la frontière du shoegaze puis du dream pop. Et le band a un très beau nom. Je ne vais pas faire d'erreur. Je vais chercher juste pour être sûr.
C'est quand même le son de la ville de Québec un peu. Il y a beaucoup de bands de dream pop québécois qui ont eu du succès.
Je sais pas s'ils viennent de là, mais ça s'appelle Grand Eugène. Tu connais ça?
Pas en tout, je vais aller faire mes recherches, mais Grand Eugène. Wow.
Grand, puis le nom Eugène. Donc, leur premier EP qui s'appelle Grand Eugène est sorti très très récemment. Puis le 9 juin 2023. Donc, ça fait. Au moment de l'enregistrement de ce podcast, ça fait 3 jours qu'il est sorti. Je ne savais pas que mon collègue me l'avait envoyé le jour même de la sortie. Mais voilà, donc moi j'ai beaucoup aimé, j'invite nos auditeurs à peut-être aller l'écouter, ça serait peut-être cool de le recevoir, je sais que c'est les guitaristes qui composent, c'est ce que mon collègue m'a dit, en tout cas qui compose la musique de ce groupe-là, donc c'est peut-être intéressant de le recevoir, qui sait, mais je vous invite tout le monde à aller voir ça, moi j'ai bien aimé, puis sinon, côté musical, c'est sûr que la Saint-Jean s'en vient, je vais essayer d'aller voir un spectacle, j'ai écouté énormément l'album qu'on critique aujourd'hui. Peut-être trop même. on aura l'occasion d'en parler. Mais toi, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie musicale ces temps-ci?
Ben, juste deux choses. J'aime quand même vraiment comment il se décrive, Grand Eugène, comme de la pop rêveuse.
Ah oui, c'est bon ça.
Mais moi, c'est un album d'un artiste brésilien qui s'appelle Pedro Martins, qui est, tant qu'à moi, un des grands révolutionnaires et virtuoses à la guitare. En tout cas, un jeune guitariste que je trouve qui est exceptionnel. Et il a sorti un album qui s'appelle Radio Mysterio, qui est vraiment excellent. On est un peu aussi, j'imagine, dans la vibe de Grand Eugène, donc avec un son assez lo-fi d'une certaine manière, mais avec vraiment quelque chose de tellement original. Des fois, on va dans le Alan Osworth par moment, mélangé avec le Apex Twin, qu'on jasait un peu, mélangé avec même des fois les sonorités brésiliennes, donc parce qu'il parle en portugais. C'est vraiment incroyable. Il y a un côté aussi Pat Metheny, tout ça mis ensemble dans un enrobage pop. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'album. Il y a une tune qui s'appelle Polos dessus qui est vraiment excellente. Donc, je vous encourage à aller écouter Pedro Martins, Radio Mysterio.
Pedro.
Ouais, pour vrai, c'est vraiment fou. T'sais, ça a été le protégé de Kurt Rosenwinkel, qui est comme un icône de la guitare jazz du début des années 2000 jusqu'à aujourd'hui. Puis, bref, ça paraît.
Je demande aux fans du podcast, qu'est-ce qu'un épisode sans mention de Alan Aldworth par Carl?
Je sais pas, je veux dire, c'est
il est toujours là, pas très loin.
En plus, j'en ai écouté hier. Je veux dire, il a sorti tellement l'album, puis c'est toujours excellent. Puis moi, ça me met dedans. T'sais, je veux dire, puis je sais pas, toi, qui est-ce que tu parles souvent, donc, qui est comme ton Alan Aldworth à moi, genre,
Boy, Ben, c'est plus de l'affaire que les autres remarquent. Se remarquer soi-même, c'est pas facile, ça, souvent.
Je suis d'accord, je vais essayer d'y passer. Je suis sûr qu'à un moment donné, je vais faire. Et voilà.
Peut-être qu'il y a un fan du balado qui tout est au bout de sa chaise. Ah, Philippe, il parle toujours de ce groupe-là. Il y en a sûrement quelques-uns, mais il y a un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Pete Parlow, je pense. Sa chaîne s'appelle Steve Tranquility. Je sais pas s'il y a du monde qui connaissent, les auditeurs qui connaissent. Puis lui, il fait des critiques d'albums, mais il est surtout connu pour faire une série qui s'appelle Rank the Discography. Il prend un groupe, puis lui, une collection de CD là, incroyable. Puis il fait du pire au meilleur, tu sais. Wow. Puis là, ces temps-ci, il fait le mois du prog. Puis à chaque jour, il fait son top 30 de ses albums de prog des années 70 préférés. Tu sais, mettons, le 1er juin, c'était son album numéro 30. Puis là, il descend. Ça, c'est super intéressant de l'écouter parler de ses albums préférés de groupe. Puis des fois, c'est capoté, tu sais. Il disait que son album préféré de Emerson, Lake & Palmer, c'est Brain Salad Surgery, qui est un choix, je pense, très valide. Puis après ça, son deuxième préféré, c'est le premier. Puis il n'y en a pas d'autres dans son top 30. Wow! Ces deux-là, c'est pas mes deux préférés. T'sais. Fait que c'est un peu comme... c'est un peu comme wow! T'sais. Mais c'est super intéressant. Il parle de groupes que je connais pas ou que j'ai entendu souvent parler, mais j'ai pas écouté beaucoup, genre Renaissance. J'aimerais ça demander qu'on fasse une critique dans leur album. J'ai à peine écouté un peu ce groupe-là. Je les ai vus en show, mais tu sais, je connais pas tant. En tout cas, si vous voulez plus de progrès dans votre vie, allez regarder cette chaîne-là. C'est vraiment cool ce mois-ci ce qu'il fait.
Mais la question, est-ce qu'il parle de caramel mou?
non, il parle pas de caramel mou. Parce que pas jusqu'à date, là. J'ai espoir qu'on va voir si on a besoin d'une cinquième saison sortir dans son top 30.
Ça serait incroyable, Ben.
Je sais que c'est un gars de l'État de New York, donc c'est pas impossible qu'il ait entendu, mais on va voir. Je l'écoute tous les jours son vidéo, je me demande tout le temps ce qu'il va nous sortir. Mais quelques groupes que je connaissais pas, mais j'ai pensé à ça parce que tu parlais d'Alan Oldworth, puis le premier UK était comme son numéro 22 ou quelque chose comme ça, fait que j'ai pensé à toi.
Quel bon album. Hey, on se lance-tu dans notre critique de l'album de Aiken, mon fils?
Oui.
Alors, Aiken a sorti un nouvel album et on a décidé d'en parler. On en avait quand même déjà parlé dans le passé de ce groupe-là. Et toi puis moi, je veux pas dire déçu, mais on avait peut-être moins aimé le dernier album, Virus. Je pense, de mon côté, puis je veux pas parler en ton nom, mais tu me diras si je me trompe, là, mais je pense qu'on avait trouvé ça peut-être trop produit. Il allait vraiment dans une direction, tu sais, comme où qu'on voit des fois les bands de metal, prog, metal et de gent aujourd'hui, donc des affaires super léchées, super compressées, super tight, des fois moins organiques.
Ouais.
Personnellement, moi, ça me touche moins.
Pareillement.
Mais, et toi puis moi, on est des fans de l'album de Mountain. On en parlait même l'autre jour. On disait que l'année 2013 était un album fort dans le progressif. Donc, on y avait eu The Mountain, on avait aussi The Raven. That Refuse to Sing. Donc, ça a été une grosse année. Mais là, il présente un nouvel album qui s'appelle Fauna.
Ouais.
J'aimerais t'entendre, mon fils.
Tu sais que c'est moi qui commence?
Ben, c'est souvent moi qui commence. Fait que j'ai le goût de te laisser aller. Sinon, je vais parler d'Alan Oldsworth. C'est ça que
je vais dire. Je vais parler de Thibaut Matteau, je sais pas quoi. qu'est-ce que j'ai pensé de cet album-là? C'est complexe ce que je pense de cet album-là.
Okay.
Je pense qu'en tout et partout, je l'ai aimé.
Oui. Okay.
Je pense que c'est définitivement leur meilleur depuis Affinity. Ça, je pense que je peux le dire sans aucun doute. Les deux derniers m'avaient laissé assez indifférent. C'est des albums que je trouvais efficaces. Mais comme tu disais, qui s'alignaient vers le genty, les gros riffs de ce genre de riffs-là. Il y a beaucoup trop de bands qui font ça. Je trouvais ça cool que ce son-là a comme commencé dans les années 2010, mais là, je trouve que c'est vraiment, ça a été trop fait. Ils se sont éloignés un peu de ça, puis mais pas par surtout des chansons. Je veux commencer par dire que j'aime vraiment pas la première chanson. Puis ça a été pour moi comme un espèce de coup de barre. Okay. Je trouve que la performance du chanteur sur la première chanson, c'est à part les refrains, mais les couplets, c'est comme c'est abominable.
C'est drôle, tu dis ça, je pensais que t'allais aimer ça, j'étais comme, parce que je trouve que le chanteur sonne vraiment différent d'habitude sur l'album en général, donc particulièrement la première, je sais que t'aimais moins le chanteur.
Non, mais j'aime bien le chanteur, je trouve qu'il est bon pour faire des grandes envolées, puis tu sais, c'est un chanteur épique, tu sais, puis ce côté épique-là, je trouve qu'il avait perdu avec les deux derniers, puis ils sont allés le rechercher un peu avec celui-là, mais La première chanson de Taurus, c'est... Je me suis dit, quand ça part, là... Little faces... Je trouve ça vraiment pas bon. Puis quand je l'ai commencé la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, tu sais? Puis je trouve que la deuxième chanson, Nightingale, est pas super non plus. Fait que je trouvais que l'album commençait vraiment pas bien. Puis ça, j'ai de la misère avec ça. Fait que ma première écoute a été vraiment, comme... biaisée. Négativement, tu sais. Mais je trouve que l'album prend son envol à partir de la troisième chanson, qui est, à mon avis, la meilleure. Qui est, bien entendu, je parle de The Alphabet of Me. Alors là, il y a le petit clavier au début. Puis là, comme tu dis toi-même, c'est différent. Puis c'est absolument. Puis ça, je trouve que cette chanson-là est différente de ce qu'ils ont fait par le passé. Puis ça me rappelle un peu Affinity, mais quand même, c'est un peu différent. Je trouve qu'il est très bien composé. Il y a des excellents riffs. Il y a le... pour moi, c'est vraiment la meilleure chanson d'album. T'sais. Puis là, c'est là que j'ai... À ma deuxième écoute... Une fois, j'ai passé l'espèce de... Bon, Nightingale est correct, là, mais la première, je l'aime vraiment pas. Puis là, je me suis plus approprié le milieu de l'album, qui est, je pense, le meilleur moment de l'album. T'sais. C'est rare qu'on dise ça. Parce que je pense qu'Alphabet of Me, Sempiternal Beings and Beneath the White Rainbow sont les trois meilleures chansons d'album, à mon avis. Là. Puis ça file très, très bien. Puis je trouve qu'ils sont uniques, qu'ils sont vraiment... C'est le son phona, à mon avis. Ces trois chansons-là, c'est vraiment ça. Donc pour moi ça a été quand même un passage d'album qui m'a beaucoup plu. All in the Clouds, je m'en souviens à peine, je l'ai écouté l'album des dizaines de fois puis je me souviens pas de cette chanson là. Love Bite, une bonne ballade quand même, ça m'a plu. Elephants Never Forget, c'est pour moi les chansons longues, les épiques, soit c'est les plus mémorables, soit on s'en souvient jamais. Celle-là, je suis comme pas sûr à tombe où. J'aime beaucoup le début, qui sonne très Gentle Giant. Peut-être que tu as toi-même remarqué. C'est très, très... Ça me rappelait un peu Cockroach King.
Ben, personnellement, c'était une de mes préférées de l'album pour cette raison-là.
Fait que... Ben, c'est ça, ça, tu vois l'influence de Gentle Giant. Qui, des fois, le band laisse sortir dans certaines chansons, puis c'est le fun. J'aimerais ça qu'il y en ait plus. La deuxième moitié de la chanson, un petit peu moins mémorable, à mon avis, mais quand même, je l'ai aimé. Ça, c'est comme ma quatrième chanson préférée, tu sais. Puis la dernière, vraiment pas mémorable non plus, à mon avis. J'ai écouté quelques fois, puis c'est une autre que je... T'sais, je me souviens comme pas vraiment, même si je l'ai écouté tellement de fois. Fait comme tu peux voir, c'est un album où la moitié des chansons m'ont laissé indifférent. L'autre moitié m'a beaucoup plu, puis la chanson que je n'ai pas aimée. Donc, la conclusion que j'ai de ça, c'est que je pense que c'est un album transitoire pour le band. Parce que je pense qu'ils ont essayé le son gentil, le son, comme tu dis si bien, super léché. Je sais pas c'est quoi la réception que ces albums-là ont eu dans le grand public, mais j'ai l'impression qu'avec Fauna, ils sont en train de se retracter peut-être, se retourner vers leur côté plus épique, leur côté plus grandiose, leur côté plus prog pur aussi.
Plus rock en fait.
Ouais, peut-être. Mais il est très metal, cet album. Il y a des gros riffs quand même. Là.
Mais le son de l'album est rock. Moi, c'est ça que j'ai aimé. En fait, je trouve que, surtout au niveau de la batterie, on est loin d'une batterie metal surproduit, triguée. Tu es comme tellement d'en face. Vraiment, les tons de la batterie sont différents. La manière que ça a été masterisé, il y a beaucoup plus de dynamique. Ça respire beaucoup plus. C'est drôle parce que de ce temps-ci, j'étais en train de faire du master pour du matrixage. Pour mon propre projet. Fait que souvent, quand, en tout cas, ça me fait ça souvent quand mettons, je travaille cet aspect-là d'un album. Là, j'écoute des albums avec cette oreille-là. Ou quand je fais du mixage, j'écoute les albums avec l'oreille de mixage. Mais avec mon oreille de gars qui travaille du matrissage de ce temps-ci, je trouvais justement que l'album respirait plus. La voix du chanteur était différente aussi. J'aimais mieux ça. Justement, c'était moins genre... super tout le temps high-pitché, on le sait beaucoup plus, les graves. Même s'il y avait des riffs métal aussi, on n'était pas dans les riffs métal, le son n'était pas trop lourd non plus. Mais un son beaucoup plus, justement, qui respire. Je pense, moi, c'est ça que j'ai aimé beaucoup de l'album. Ça ne doit pas être facile pour un band qui a sorti un album comme The Mountain, puis tout le monde, nous-mêmes, on fait ça, comme de tout le temps revenir à cet album-là, d'être comme « Ah, mais The Mountain, non, mais The Mountain. »
Ouais, c'est sûr, c'est sûr.
Fait que, tu sais, je sais pas à quel point je me dis « Je veux qu'un band retourne en arrière, d'être comme on va faire dans sa poignée. » Mais, tu sais, est-ce qu'ils s'en vont reculer un peu en arrière pour aller vers un autre chemin? Peut-être, tu sais.
Ouais, ben j'espère.
Mais grosso modo, moi, je trouvais que c'est un excellent album. Là, okay. Personnellement, je trouvais que c'est leur meilleur opus depuis, comme tu dis, Affinity.
Mm-hmm.
Puis The Mountain, je veux dire. Ben, décidément, il y a un côté beaucoup plus rock-prog, je trouve, quand même.
Ouais.
Qu'on qu'on l'aime bien, toi puis moi. Là, fait que...
Ouais. Il est moins redondant aussi. Tu sais, je trouve, monsieur, ouais, je suis les d'accord. Deux autres, je les ai à peine écoutés. Je les ai écoutés pour les critiques, je les ai jamais réécoutés après ça. Tu sais.
Moi non plus.
Puis, de mes souvenirs, c'était tout le temps comme tu dis dans ta face. Puis les, mais c'est drôle que tu parles du son du groupe parce que moi, je trouve que, encore avec cet album-là, il y a encore une... c'est encore un peu aseptisé, je trouve, le son.
Ok.
Je le trouve encore trop. Comment dire? Oui, c'est plus organique que les deux derniers, mais j'aimerais ça qu'il soit encore plus. Je trouve que c'est un band qui bénéficierait peut-être à lâcher l'os un petit peu sur la production, puis embrasser le côté expérimental de l'enregistrement aussi. Parce que je pense qu'ils sont un peu prisonniers de leur espèce de perfection audio. Puis je sais que le prog moderne demande ça. T'sais, puis je pense que je serais curieux de savoir ce que nos auditeurs en pensent. Pour moi, c'est un des trucs que j'aime le moins du prog moderne. C'est l'espèce de perfection, hyper production qui vient avec ce genre-là. Tu sais. J'ai moins. J'aimerais ça qu'ils retournent un peu en arrière, les bands. Puis Aiken, je pense qu'ils gagneraient à faire ça parce que je pense qu'ils ont les musiciens, ils ont la créativité, puis ils ont le génie pour faire ça. Ah, j'espère qu'ils vont s'aligner vers là. Mais je pense que t'as aimé l'album plus que moi, je me trompe dessus.
Moi, j'ai vraiment aimé cet album-là. Je sais pas si je vais le réécouter. Je sais pas si ça va faire mon top 5 de l'année 2023.
J'ai pas dans l'album cette année, moi, je trouve. Ben, on dit à chaque année, on dit ça, mais...
Mais j'ai l'impression que l'année passée, moi, c'était vraiment... J'ai comme écouté plus d'albums de l'année. Mais non, t'as raison. Mais en fait, on se rend pas compte, mais on est déjà à la moitié de l'année. Ouais. Genre. Bon, ça, aussi, on dirait que...
Il y a pas d'albums qui m'ont marqué tant que ça, je pense. Là. J'étais un peu équipé pour notre top 5, bien en savoir.
Ben, peut-être que l'automne va être riche, mais... En fait, c'est fou parce qu'il y a plein de bandes de prog qui ont sorti des albums au début, genre Riverside, Yes,
Le
Aiken. Mais moi, j'ai quand même vraiment bien aimé l'album. En fait, j'étais vraiment surpris.
Tu t'attendais à pas aimer ça?
Non, je m'attendais à un gros son lourd, léché un peu, tu sais, comme des autres. Puis j'étais comme, ah, ok, yes. Il y a quelque chose de différent, vraiment une évolution. T'sais. C'est ça que j'aime. J'aime ça quand les bandes changent.
J'avais été un peu divulgaché parce que j'étais allé au baseball avec mes amis François et Sam. Je vous salue d'ailleurs, si vous écoutez. Puis ils m'avaient dit que c'était vraiment comme un retour aux sources, puis que c'était vraiment comme plus Affinity, puis The Mountain, puis que j'allais adorer ça. C'est pour ça que quand j'ai écouté The Rush, je me disais, mais de quoi qu'ils parlent, ces gars-là?
Ça commence avec les grosses guitares, tu sais, c'est ça qui arrive.
Ouais, c'est ça. J'ai commencé, j'en ai pas écouté l'album, eux autres, puis moi. Puis, après quelques écoutes, j'ai compris, je pense qu'il parlait des moments comme Alphabet of Me, Septentrial, Beings, puis Elephants Never Forget. Je pense qu'il parlait peut-être plus de... Donc, je vois ce qu'il voulait dire. Puis, je pense aussi que c'est un pas dans la bonne direction. Puis, je veux mentionner quelque chose. J'ai oublié de le mentionner. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans l'album. Dans Benny the White Rainbow, quand il chante comme... C'est comme vraiment aigu, là. Nanananananana! Tu sais, c'est comme... quand on dit qu'il y a comme le micro dans la gueule, là. Tu sais de quoi je parle?
Mm-hmm. Yeah, ouais, ouais.
J'adorais ça. Je veux qu'il fasse des trucs comme ça plus souvent. J'ai trouvé ça... Tu sais, qu'on disait... est-ce que c'est la dernière chanson? J'ai même oublié le nom. Eyes of Ebony, tu sais. C'est rien qui m'a marqué à cette chanson-là, mais... Benny the White Rainbow, tu sais, je pense automatiquement... Quand je pense à l'album, je pense à ce passage-là. Puis au petit riff de clavier... Alphabet of Me, tu sais, c'est comme les deux moments que je pense le plus souvent quand je pense à l'album.
Ouais, ouais.
Puis je parlais un peu avec François de l'album sur Messenger, puis il chante beaucoup aujourd'hui, mais il y a un truc que je suis vraiment tanné d'entendre de Reagan, c'est le
comme la riff signature, là, ouais.
Ils font tout le temps. Tous les albums, il y a One Tune qui se reflète dedans, on dirait. Fait que c'est pour ça que je trouve que cet album peut-être qu'il va être transitoire, parce que je pense qu'ils vont à des. Il y a des nouvelles expérimentations et des nouveaux sons que je trouve très cool. Mais il faut qu'ils s'éloignent des à mon avis. C'est ça, on a eu assez. Donc voilà, c'est un album que j'ai aimé, que j'ai beaucoup écouté. Je pense que je vais prendre un petit break. mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié. Puis je suis content de l'avoir écouté parce que j'étais un band que je commençais un peu à me distancier puis à plus vraiment m'intéresser à ce qu'il faisait. Donc là, je suis comme j'ai un intérêt renouvelé pour le groupe. Donc voilà, ouais. C'est cool.
Moi, j'ai juste faire le petit mot sur la pochette que je fais d'habitude. J'ai ben vraiment oui. aimé la pochette. Quelle magnifique. Belle pochette.
C'est pour leur dire. Plus belle pochette qu'ils ont fait. Ça, moi, je suis
sûr. Avec The Mountain. The Mountain, je trouve qu'elle a quitté. On ressent l'épicness. Mais tu le côté ludique de cela avec genre, le petit singe, les oiseaux, sérieux. Moi, j'aime ouais. vraiment ça.
Magnifique.
Ça fait très prog, mais à la fois très cartoon, très original. Donc,
là, ben, c'est ça. Je trouve ça très prog aussi, mais prog, plus dans le sens, on a du fun, ça.
Ouais, non, je suis d'accord.
On se prend pas trop au sérieux, j'aime ça aussi, c'est cool. Surtout dans le premier moderne, qui est souvent les pochettes, c'est genre des signes d'infini dans l'espace, là, des affaires de même. Je suis moins intéressé par ça.
Un dessin moderniste sci-fi, genre, fait par ordinateur, genre.
Ouais, c'est ça, je suis moins là-dedans. C'est vraiment comme une œuvre d'art. Tu sais, je pourrais afficher ça sur mon mur, là, c'est vraiment beau, là.
Ça me rappelle Les Claypool. Il y a un album de Les Claypool qui ressemblait à ça.
Ah, je sais pas.
Qui avait des serres, en tout cas, Funky Info. Mais, mais bref, en tout cas.
Est-ce que tu le recommandes
100%? Moi, je pense les gens qui aiment Aiken, puis peut-être qu'ils se sentaient délaissés, allez l'écouter.
Ouais.
C'est un excellent album de prog moderne d'aujourd'hui. Là, mm-hmm. Je veux dire, on s'entend. Là, je pense qu'il n'y a rien qui cloche au point de vue musical. C'est bien enregistré, oh, non, ben... c'est bien écrit, c'est bien produit. Je veux dire. Si vous êtes si vous aimez le prog des 10 dernières années, allez écouter ça, je pense. Vous allez
ouais.
Si vous êtes un fan peut-être de vieux prog, allez peut-être genre y jeter un coup d'œil, mais c'est peut-être moins ça qui va vous faire triper, tu sais, je pense. Selon moi.
Ben, c'est ça que je trouve cool avec AKM. J'ai souvent eu cette théorie-là. Je trouve que c'est un band qui avait réussi avec The Mountain à vraiment comme...
faire la combinaison des deux mondes.
Ouais,
là.
À relier un peu le vieux prog et le nouveau prog. Mm-hmm. Affinity, c'était éloigné de ça. Je trouve que c'était autre chose.
Ouais.
Mais c'était bon quand même. Je trouve que Fauna, on dirait, se retente peut-être le jeu un peu du côté plus symphonique du vieux prog, côté plus épique du vieux prog. Comme j'ai dit, la seule chanson que j'aime pas sur l'album, c'est Taurus. Vraiment. Donc, si vous l'écoutez, la première, laissez-vous pas impressionner par ça. Là. C'est pas. Je vous invite vraiment à aller au moins jusqu'à Alphabet of Me. Je pense qu'il est un album. C'est une des chansons que je vais sûrement réécouter. Là, si j'avais une chanter des chansons à écouter comme juste une, pas l'album au complet, ça serait.
Mettons que tu avais une liste de lecture de une tonne d'albums à écouter,
ouais.
Elle serait là. Genre,
ouais, vraiment, je l'aime beaucoup. Là, c'est vraiment une bonne chanson. Voilà. Donc, moi, je recommande aussi, même pour les vieux fans de prog, ça peut être une belle façon d'essayer des trucs plus modernes. Puis, tu sais, sur Prog Archive, il décrit comme du heavy prog. Puis, pour moi, c'est que ce band-là, c'est comme la quintessence du heavy prog, de ce terme-là. Ouais. Puis, c'est un peu aussi, c'est un peu comme, des fois, il sonne un peu Dream Theater, tu sais. Puis, pour moi, Aiken, c'est comme ce que Dream Theater aurait dû évoluer à devenir, tu sais.
Ouais, je comprends.
Pour m'intéresser, moi, je comprends qu'il y a un public pour ce qu'ils font aujourd'hui, mais ça m'intéresse plus vraiment ce qu'ils font. Mais tu sais, Aiken, c'est comme s'il était parti de la même place, puis il avait évolué de deux façons. Moins sur la virtuosité, plus sur l'épique, le théâtral, puis l'expérimentation. T'sais, ça, c'est,
ouais.
C'est la partie du heavy pro qui m'intéresse plus. Fait que c'est pour ça qu'ils ont plus quand même une place importante. Puis,
ouais.
Voilà. Donc, ouais, une recommandation aussi.
Ben ouais, puis tu sais, heavy prog, c'est un peu croisé de chemin entre le son prog et rock et prog metal aussi.
Ouais, ben c'est ça, c'est du metal, c'est du metal prog, là, mais t'sais, plus accessible, disons, le moins, il n'y a pas de scream. Ou,
plus caramel mou, un peu. Là,
je sais même pas comment ça sonne, caramel mou.
Moi non plus, mais j'aime juste, genre, les plugger, genre, c'est juste ça. Ça va être mon nouveau à la North World.
Faudrait que tu commences par les écouter.
Je sais, ben c'est dur à trouver, man. C'est ça la
ouais. peur. Ben, nous autres, on connaît quelqu'un qui en a trouvé un, fait que...
Ouais,
ben c'est quand qu'est-ce que tu penses qu'on ferait une vidéo, nous autres, qui se filme aux fréquences, hein? Ça faudrait faire ça. Tu sais, un What's in my bag, là, tu connais cette chaîne-là?
J'adore ça, man. C'est... Oui, exactement. N'importe quand, man. Parce que le fréquence, c'est vraiment un des meilleurs disquaires au monde.
Mais j'ai l'impression que t'as tout ramassé ce qu'il y avait de bon là-bas.
Ah, man, c'est ça l'affaire. T'en reviendrais, tu vas te chercher quelque chose une journée, t'en reviens le lendemain, il y a d'autres choses, man. C'est fou. Non, c'est fou comme ça, là. À chaque fois que j'y vais, je découvre de quoi de fou, là. T'sais, je veux dire, c'est. T'sais que tu t'attendais pas, là. T'sais.
Mon rêve, c'est qu'on fasse un What's in My Bang aux fréquences avec Kevin Brunner. Qui est associé à scène.
N'importe quand, man. N'importe quand, man.
N'importe quand. Un fan de Kiss, Kevin Brunner. Qui l'aurait cru? C'est un grand fan de Kiss. En tout cas. Si vous ne connaissez pas, allez voir ça. La chaîne YouTube Kevin Brunner, c'est vraiment capoté. C'est un film québécois que j'aime beaucoup.
En fait, j'aimerais ça le rencontrer pour voir comme la vraie personne, d'ailleurs, le personnage. T'sais.
Je suis curieux aussi savoir la frontière est où entre les deux.
Ben, je pense que c'est un grand personnage, mais en tout cas. Ouais. L'autre discussion, hey, on s'en va dans notre top 5 d'album double, mon fil. Puis comme je disais au début de l'épisode, pour toi puis moi, c'est quand même un sujet qu'on a jasé souvent. Parce que pour nous, la durée des albums, c'est un critère dans notre appréciation.
Absolument.
D'album. Puis veux pas quand t'as un album double, c'est plus long. Fait que des fois, moi personnellement, je trouve des albums doubles, c'est long. J'écoute juste un CD. Là, t'es dans ton auto, il faut que tu aies changé de CD. T'es comme, pour ceux qui ont encore des lecteurs CD dans leur auto. Je pense souvent, c'est pas mes albums préférés, les albums doubles. Puis je suis comme, puis j'ai déjà vu des albums triples aussi dans ma vie. Ça m'est déjà arrivé, là. Puis là, c'était comme un album de musique expérimentale, là, t'es très agressive, là. Je veux dire, c'était un statement, t'sais. Il y en a quand même qui, pour moi, ont fait l'épreuve du temps puis qui m'ont touché. Puis je pense pour toi aussi, comme je disais au début de l'épisode. Et c'est ce qu'on parle aujourd'hui.
Ouais.
Par où commencer?
Je vais parler de ma relation avec les albums doubles un peu.
Ben, vas-y donc.
Parce que je suis un peu comme toi où... mettons, le dernier Aiken. La dernière chanson... Je l'aurais pas mis. T'sais. C'est comme 9 minutes de plus dans l'album. Tu finis que la tune dans 11 minutes, puis t'as it. À chaque fois. Puis même sur le Riverside, je pense que c'était comme la dernière ou l'avant-dernière que je me disais, elle sonne même pas comme le reste de l'album. Qu'est-ce que ça fait là? Alors, un album double, c'est beaucoup plus que ça. C'est au moins. Je pense qu'un album double dure au moins une heure, mais souvent va jusqu'aux heures et demie. Donc, c'est très long. Pour moi, ce qui différencie un bon album double d'un mauvais album double, c'est est-ce que cet album-là a une ligne directrice? Est-ce qu'il est bien réalisé? Quand un album sonne comme un ramassis d'idées ou un restant de chansons mis sur une compilation, ça paraît beaucoup. Ça paraît beaucoup, puis c'est pas bon. C'est chiant, c'est long, c'est pas intéressant. Parce que t'as l'impression de passer dans un dédale d'idées déconnectées.
C'est vrai que des fois, les artistes ont de la misère à se dire, ils aiment tellement toutes les tunes, sont comme, je vais toutes les mettre, puis on va faire un album double. Des fois, ça sonne comme ça un peu. T'sais. J'arrive pas à couper. T'sais.
C'est pour ça qu'il y a des albums doubles qui sont assez classiques, qui sont pas dans mon top 5, parce que je les aime carrément pas vraiment, parce qu'il y a trop de chansons qui sont des idées. Puis on en parlera peut-être après. Après qu'on ait dit nos préférés, on pourrait peut-être mentionner certains qui sont pour nous des exemples de mauvais albums doubles. Mais ça a été vraiment difficile à faire ce top 5 local parce que j'en ai écrit 11 que j'aimais beaucoup. Puis, à part le 1 et le 2 qui étaient pour moi des évidences, après ça, c'est vraiment. Ça aurait pu être vraiment dans n'importe quel ordre. C'est vraiment difficile, fait que je vais vraiment faire une mention des mentions spéciales après parce que mon numéro 5, c'est ça aujourd'hui, ça aurait pu être un autre la semaine prochaine. Je pense que des fois, ça serait intéressant aussi qu'on revisite des top 5, tu sais, sans réécouter nos... Tu sais, quand on va dire l'épisode 300, là, qu'on refasse des top 5 sans réécouter nos vieux pour ça, est-ce qu'on dirait la même chose aujourd'hui? Je pense que ça pourrait être intéressant.
Faudrait que quelqu'un, genre, de neutre aille vérifier c'est quoi nos top 5, puis on les révèle à la fin, on les ouvre, puis on fait « Fuck, on avait dit ça, genre! »
Tu sais, mettons, top 5 de Rush, l'album de Rush, on a fait ça au début. Je me souviens pas de mon top 5, tu sais. Je me souviens mon numéro 1, parce que c'est mon préféré, je le sais, mais tu sais, mon numéro 4, j'ai aucune idée c'est quoi, tu sais. Ça pourrait être intéressant d'y retourner. Même sur le Pink Floyd, tu sais, je me souviens pas vraiment ce que j'ai mis comme... Je me souviens mon numéro 1 encore une fois, mais 2, 3, 4, 5, je ne sais pas de l'ordre. En tout cas, c'est... Fait que pour dire que, bon, c'est les albums doubles, j'en ai écouté pas tant que ça dans ma vie, je me suis rendu compte. Mais il y en a vraiment 11 que je recommanderais à des gens. Et les placer a été extrêmement difficile. Surtout 3, 4, 5.
Je comprends.
Parce qu'il y a tellement d'albums... Il y aurait tout pu faire le numéro 5, vraiment.
Je comprends.
Donc voilà, c'est ça. Je le regarde, je dis, je mets ça là, je mets ça là. Je vais garder ce top 5 là, puis that's it, c'est tout.
Ça fait mal des fois, mais il faut l'assumer. Il faut assumer le fait que demain, ça va être peut-être différent.
Il faut vivre avec.
Mais je vais commencer mon film.
Oui.
Je me lance. Moi, je vois que peut-être un album osé. Peut-être que pas grand monde aurait mis ça là. Mais moi, c'est un album qui est arrivé plus tard dans ma vie.
OK.
Je parle de Homogoma de Pink Floyd.
OK.
qui est un album double. Là, est-ce qu'on pourrait débattre? Dans le sens, c'est, il y a un album que c'est un album live, puis un album de leur ancienne, de leur tune de l'époque, et un album, le deuxième album, qui est comme chaque membre du band a fait des compositions. Puis c'est pour ça que j'aime tellement cet album-là. C'est tellement pété, mon gars. Là. C'est vraiment de la pure créativité. Tu vois que c'est qu'ils sont en studio, puis ils voulaient essayer des affaires. Pis c'est vraiment un album transitoire qui amène vers middle, qui amène après ça vers leur période de Dark Side of the Moon et compagnie. C'est ça qui est cool, parce que dans cet album-là, chaque membre du band a composé une pièce. T'sais. Nick Mason a fait une pièce, t'sais, je veux dire. Nick Mason, là, t'sais, je veux dire, c'est malade. Là, t'sais, pis c'était vraiment encore dans ce temps-là un band qui composait tout le monde presque ensemble. Il y a une pièce de Richard Wright, il y a une pièce de David Gilmour, il y a deux pièces de Roger Waters, dont la fameuse pièce Several Species of Small Furry Animals Gathered Together in a Cave and Grooving with a Pict. Pour ceux qui se le demandent, je l'avais écrit en face. Je ne l'ai pas appris par cœur, mais d'ailleurs, par plaisir, j'ai déjà ralenti cette pièce-là. C'est une pièce avec plein de petits plein d'animaux. Si vous ralentissez pour l'entendre, leur voix à eux, normale, là, c'est drôle, hein, s'il vous plaît, de savoir qu'est-ce qu'ils disent. Là. Ça n'a comme pas de sens. Et on a, après ça, le premier album, le premier vinyle, qui a leur grand classique de l'époque, on a Astronomy Domain, qui est vraiment une version différente, qui est vraiment un moment d'orgue, là, comme waouh, qui n'est pas dans l'original ou que j'ai jamais entendu ailleurs, qui est folle. T'sais. Puis il y a des pièces aussi que moi j'aime beaucoup, comme A Source Full of Secret, qui est tout le temps un gros jam, ou Set the Control for the Heart of the Sun, Careful with that Axiogene. C'est un peu le setlist qu'ils ont fait à Pompéi.
Ouais.
Et je trouve que cet album-là, c'est vraiment une belle photo, si je peux dire, une belle mémoire phonographique de comment c'était Pink Floyd en show à cette époque-là, quand il était juste 4. Donc, pour toutes ces raisons-là, je l'ai mis en cinquième position parce que je trouve que c'est un album que chaque album a vraiment quelque chose de différent. Et je veux dire qu'à cause pour cette raison-là, il n'est pas ennuyeux d'une certaine manière. C'est vraiment deux univers différents. T'sais. Et que dire de la pochette aussi?
Ouais.
Une fois, les pochettes de Pink Floyd, toujours aussi légendaires. Donc, pour cette raison, Omogoma.
Umagoma, je l'ai écouté comme peut-être une fois ou deux dans ma vie, mais je sais que mon frère Fred, qui écoute le podcast, je crois, on te salue, aime beaucoup cet album-là aussi. Puis, je me souviens de l'histoire qu'il avait reçu, je pense, une carte cadeau, puis il était cher. Il était cher en CD, cet album-là, parce que c'est un CD double, justement.
Ben oui.
Pink Floyd, ils sont pas généreux sur les prix, disons. Un peu à la King Crimson, comme on parlait l'autre
fois. Un peu moins, quand même. King Crimson, ils sont quand même chers.
Ils abusent un petit peu. Mais ils savent les genres de fans qu'ils ont.
Ben oui.
Puis il m'avait parlé beaucoup aussi. Puis je devrais le réécouter, parce que pour moi, cette époque-là, puis c'est ultra controversé ce que je veux dire, mais c'est l'époque d'or de Pink Floyd, tu sais. Atom Heart Mother, Metal, Umagoma, tu sais, c'est l'époque expérimentation.
La plus créative, totale. Selon moi, là, tu sais.
C'est ça, c'est pure, pour moi, c'est la
créative
plus.
Créative pure, là.
C'était pas la meilleure à écouter. Tu sais, je pense que Wish You Were est un meilleur album que Umagoma. Ben, t'sais, mais
il y a des classiques là-dessus, puis, tu sais.
C'est ça, tu sais, mais même Animals, tu sais, c'est des chansons qui sont plus agréables à écouter, tout ça. Mais d'un point de vue, tu sais, créatif, puis comme la liberté du band, c'était un band qui avait vraiment une liberté créative. On dirait que c'était débridé, c'était infini, tu sais, fait que. Le désir de repousser les limites puis de créer des nouveaux sons avec ci pis ça pis, donc c'est un peu cet album-là fait partie de cette époque. Ouais. On parle pas assez souvent de Atom Heart Mother non plus, mais c'est un excellent album
avec l'ouverture symphonique et moi la tune Fat Olson, j'aime magnifique. Toujours c'est magnifique pièce, hein.
Ouais, vraiment, donc excellent choix. Ça n'est un cas que j'avais pas pensé du tout, donc,
moi non plus. C'est en fouillant sur des sites de top, tu sais, comme de des fois, ouais. Je fais ça pour m'inspirer puis là je suis comme ah si c'est vrai, ben oui.
Pas penser à cela, ouais. Ouais, absolument. Ça va me donner le goût de le réécouter. Mon numéro 5.
Vas-y donc.
Mon numéro 5, j'en ai déjà parlé pas mal sur dans notre épisode 50, les albums qui nous ont le plus influencé. Ça a été difficile de mettre cela, j'hésitais vraiment plus qu'un autre. C'est des classiques, mais c'est mon top 5 vraiment, mais c'est London Calling de The Clash. Je peux pas. J'en ai beaucoup parlé à l'épisode 50, donc je m'étalerai pas trop ici.
Ouais.
Mais pour moi, c'est un album où il n'y a pas vraiment de moments faibles. La première chanson est excellente, la dernière est excellente. Et ce qu'il y a entre eux, il n'y a pas vraiment de chanson que j'aime pas. Il y a peut-être une chanson que j'aime un petit peu moins. Puis même là, c'est pas une mauvaise chanson. Une chanson que j'aime un peu moins sur un album d'une heure et plus, c'est très bon. C'est des courtes chansons, hein, fait que si long comme ça l'album, c'est que c'est beaucoup d'excellentes chansons dessus. il aurait pu sonner vraiment aussi Diddy parce qu'il y a tellement de genre là-dessus. Mais pour une raison qui m'échappe, ça sonne pas comme ça. C'est peut-être parce que l'ordre des chansons était bien fait. C'était parce que même si c'est des styles différents, il y a un son, il y a une esthétique qui relie tout ça. Il y a du rock'n'roll, il y a du punk, il y a du funk, il y a même du reggae. Il y a tellement de choses sur cet album-là. Puis comme je disais aussi, tu sais, c'est dans l'épisode 50, c'est que c'est un album qui m'a beaucoup marqué et que j'aime beaucoup parce que c'est la preuve qu'un band peut se réinventer, peut repousser les limites. C'est un genre qui était tellement, en plus, c'est comme nomenclaturé, tu sais, du punk anglais à cette époque-là, c'était les Buzzcocks, c'était Sex Pistols, c'était ça, tu sais. Bon, il y avait des sous-genres, il y avait le Oi avec Sham 69, il y avait d'autres choses comme ça. On va faire un épisode punk un jour, peut-être.
Avec plaisir.
Mais voilà que London Calling, pour moi, c'est comme le... Il y a quelques albums dans l'histoire du punk, je pense, qui marquent comme l'évolution du genre. Je pense à cela, puis je pense souvent à un que je pense que nos auditeurs aimeraient peut-être pas, mais The Shape of Punk to Come, de Refused. Pour moi, c'est du génie. Puis ça, c'est comme... Là, on est à l'étape après. Tu sais, là, c'est le hardcore qui évolue. Il y a quand même des albums comme ça qui chalonnent le genre. Puis London Calling, pour moi, c'est tous mes 5 choix. C'est les 10 sur 10. À mon avis, c'est des albums comme parfaits. Là, tu sais, puis c'est... Voilà. Donc, London Calling de Clash, c'est mon numéro 5.
Ouais, puis je pense aussi que cet album-là, en particulier, a une importance dans le monde même de la... je recommence ma phrase, excusez-moi. Je pense que cet album-là a sorti un peu le punk de la contre-culture aussi. Puis, ça a été un album très populaire, puis il y a des pièces qu'on connaît bien là-dessus. Puis, je veux dire, avec The Clash, je pense que ça a sorti un peu aussi du côté anarchiste absolument, puis faut que ça fesse, puis que tout en ayant un peu cet esprit-là. Ben, je m'en souviens même plus que c'était un album double, mais excellent choix. Moi, mon numéro 4, Phil, tu sais très bien qu'il allait être sur ce top 5-là. C'est un album que je parle depuis que j'ai 16 ans, puis qu'on se connaît. C'est Song in Key of Life.
C'est pas ça là je m'attendais. Je savais qu'elle allait dans ton top 5, par exemple.
Mais l'autre, il s'en vient. Mais c'est que Song in Key of Life de Stevie Wonder. Les albums doubles, c'est pas facile pour un band de faire de quoi qui se tient, comme on disait au début, particulièrement pour les albums pop, je pense. Parce que souvent, les albums pop ont un peu un concept qui peut permettre de lier les affaires. Un album pop, des fois, c'est des tunes plus courtes, faites pour être presque des singles. Mais dans Song in Key of Life, qu'est-ce qui est particulier? C'est que c'est l'album que Stevie Wonder a sorti après peut-être un an de pause parce qu'il y a eu un grave accident. Et il est rentré en studio et il a fait cet album génie-là où on connaît plusieurs pièces. On connaît Sir Duke, Wish, on connaît... Isn't She Lovely, As, il y en a plein. Une de mes préférées qui est Another Star. C'est un album quand même très long. Moi, je vous dirais, mon album préféré, on pourrait dire ça aussi, nos albums entre le 1 et le 2 préféré, moi, c'est le premier. Mais on passe par tellement d'univers sonores. Le latin, la musique gospel, le funk, naturellement, la musique soul. On passe aussi par le fusion avec une pièce qui s'appelle Contusion, qui est une grosse pièce de fusion instrumental, qui c'est vraiment malade. Il y a même des versions live du début des années 70 où avec son band, il commençait à travailler ces tunes-là, puis ça donne de quoi de vraiment le fun, tu sais. Et oui, puis j'étais un gros fan de Stevie Wonder dans ma vie. Et oui, pour toutes ces raisons, pour la recherche, il y a vraiment une recherche dans cet album-là, tu sais, de sonorité et tout. Puis Stevie, il jouait presque tous les instruments, même le drum, tu sais. Ben, je l'ai mis en numéro 4, pour moi, c'est... un chef-d'œuvre, là, t'es fait que. Un chef-d'œuvre de la musique pop. Donc.
Pop, funk.
Ah, ça passe par tellement d'affaires.
Ouais, c'est. Encore une fois, j'ai pas écouté tant que ça. Je connais surtout les singles.
Ben oui.
Mais ça vaudrait la peine que je m'y replonge. Je sais pas si ça te fait comme pour la même chose pour toi, mais tu te donnes le goût de réécouter les albums que j'ai pas.
Moi aussi!
Souvent. Donc. Excellent choix. Je pense que c'est sur Magnum Opus?
Moi, je dirais que c'est sur Magnum Opus. C'est un gros album double, comme ça. T'es, c'est ça qu'il faut avec Stevie Wonder. Il a sorti d'autres albums après puis avant aussi. Talking Book, Fully Fullingness, que je me souviens plus du nom. Inner Vision, qui est mon deuxième préféré de lui. Il y en a plein, là, je veux dire. Mais t'es, c'est quelqu'un aussi qui, à partir des années 90, même fin 80, il n'a plus sorti tant d'albums Stevie Wonder qu'on y pense. Là, ce qui est fou des fois, j'en jouais avec quelqu'un, quand tu penses à des grands compositeurs comme Beethoven ou tout ça, composé jusqu'à la fin de leur vie. Il y avait peut-être une raison alimentaire pour ça. Ouais. Mais plusieurs artistes pop des années 70 qui ont arrêté même des fois. Puis c'est intéressant. Puis je pense que ça montre que le marché de la musique est différent. Même juste dans le milieu classique, les compositeurs du début du 20e siècle avaient plus des comme back, genre des listes de 1000 œuvres et plus. Mais ça, c'est quelque chose d'intéressant. Comme artiste, est-ce qu'à un point, on peut se dire qu'on n'a plus rien à dire ou que on veut plus nécessairement montrer au monde notre musique. En
tout cas, ben, s'ils peuvent se le permettre, moi, je pense que les musiciens doivent prendre leur retraite eux autres aussi. Là.
Ah, ben, à 100%. Ben,
Rush, il aurait pu engager un autre drummer là, puis, continuer à faire de la musique très bonne, sûrement. Là. Leur dernier album, c'est pas leur pire. Là, pas du tout.
Ben, non, du coup. Mais tu sais, c'est justement... C'est fou que ces gens-là, des fois, manés, pas qu'ils ont plus rien à dire, mais qu'ils décident de moins être actifs. En tout cas, il faisait d'autres shows, mais je vois ses tunes. En tout cas, bref, petite parenthèse philosophique.
Mm-hmm.
Phil, ton numéro 4.
Mon numéro 4, je pense que tu seras pas content.
Qu'est-ce que tu vas me mettre? Vas-tu me mettre The Wall de Pink Floyd, toi, là?
Certainement pas. C'est Leptad, mon numéro 4.
Ben, je suis très content de l'entendre.
Mais c'est pas mon numéro 2 ou 3, c'est 4.
Wow! Ben, c'est vrai quand même, là. Je vais en entendre. Là.
Mais Leptad, c'est un album que j'ai vraiment découvert sur le tard.
Ouais.
J'ai déjà raconté sur le podcast, mais mon père disait souvent que c'était comme vraiment moins bon que si on a besoin d'une cinquième saison, puis que l'enregistrement avait été difficile, puis que lui, il l'écoutait jamais, puis je le voyais souvent à la boîte. Lui, il avait le CD comme, tu sais, la grosse boîte avec... t'ouvres deux fois, là. J'étais comme, je veux l'écouter, mais j'ai peur d'être déçu, puis... Fait que je l'avais comme boudé. Je trouvais que la pochette était sévère. J'étais comme, ça a l'air, tu sais, c'est austère un peu. Tu sais, c'est beaucoup de noir avec une petite photo de nuage. Puis je suis pas sûr de si je veux me lancer. Puis c'est finalement avec toi que je l'ai écouté pour la première fois. Moi, c'est seul chez tes parents sur leur système de son.
Tu l'avais jamais écouté avant ça, c'est vrai?
Je l'avais jamais écouté avant ça. C'était la première fois que je l'écoutais.
Ah, oh, ben.
Puis on avait passé vraiment un beau moment. Ça a été une belle surprise pour moi. C'est un album que j'ai réécouté, écoute, j'ai un nombre incalculable de fois. Ben, c'est 5 albums que j'ai écouté 1 million de fois chaque, là. Fait que,
ouais.
Mais lui, entre autres, c'est peut-être lui que j'ai le moins écouté parce que je l'ai découvert plus tard, mais quand même, superbe album qui a une très forte ligne directrice. Tu sais, on disait, qu'est-ce qui fait qu'un album...
Gros concept, là.
C'est ça. C'est la raison pourquoi j'ai voyé plus haut... c'est que j'écoute vraiment moins souvent le deuxième album. Souvent, j'écoute que le premier. J'aime beaucoup le deuxième album aussi, vraiment. Mais je sais pas pourquoi, je m'y rends moins souvent. Puis quand je m'y rends, je suis toujours content de l'avoir fait. C'est sûr que c'est pas un album que j'aime quand même beaucoup. Puis il y a beaucoup de chansons. Une autre critique que j'ai un peu, c'est dans le premier album, il y a beaucoup de chansons qui commencent avec juste la petite guitare pas forte, puis que ça augmente. C'est qu'il y a comme 3 chansons de même. Puis à chaque fois, je suis comme, ah, tu sais, il aurait peut-être pu penser à d'autres façons d'ouvrir que ça. En tout cas, mais ça, c'est vraiment je niaise un peu, là, mais excellent album. Il n'y a pas vraiment de mauvaise chanson là-dessus, mais il n'y en a juste pas. Il y a vraiment des moments marquants, des performances exceptionnelles. Donc, ouais, je sais pas quoi dire de plus que ça. Le concept et tout, je suis moins familier avec, puis honnêtement, ça m'intéresse un peu moins, mais l'offre que ça a donné, puis encore une fois, l'aventure qu'on vit à travers cet album-là, c'est tellement marquant que c'est dur de pas aimer ça. Ouais. Donc, mon numéro 4, c'est Leptad.
Ben, sérieusement, Phil, je vais pas en parler tout de suite, parce que, comme tout le monde dans nos fans doivent s'en douter, il est dans mon top 5, il est beaucoup plus haut.
Bien sûr.
Mais je vais pas en parler tout de suite, parce que je vais avoir encore du stock à dire.
Ben oui.
Je te comprends. Ça m'amène à mon numéro 3, qui est l'album que je parle depuis qu'on a 15 ans, qui est, tant qu'à moi, en show de lutte avec, en fait, les trois, genre mon top 3, c'est pas mal dans mon top 5 de mes albums préférés ever.
C'est ça.
Et les trois, ça pourrait s'inverser, mais particulièrement lui puis le premier. Mais je l'ai quand même mis là, parce que le 2, en tant qu'album double, est meilleur. Bref, en tout cas, je m'égare. C'est Electric Ladyland de Jimi Hendrix.
OK.
Qui est un incroyable album. Premièrement, qui est tant qu'à moi, je veux dire, le plus grand album de Jimmy. Il y a des grands classiques qu'on connaît, Voodoo Trial, Cross Town Traffic, All Along the Watchtower.
Mm-hmm.
et quelques heures d'autres, et dont 1983.
La meilleure chanson qu'il a écrite.
I Should c'est... Turn to Beat, et qui est quand même du proto-prog, à mon Absolument. Sens, à moi. J'aime toujours d'ailleurs penser, il y avait une rumeur qui disait qu'il y avait peut-être il aurait pu avoir Jimi Hendrix avec Emerson, Lake & Palmer. Il existe cette rumeur-là quelque part, comme on a déjà dit.
Aïe, aïe.
Ça aurait été fou. Mais, parce qu'ils ont joué ensemble au Isle of Wight, là, un festival, ou c'est ça, ou Monterey Pop. En tout cas, bref. Bref, Electric Ladyland, excellent album. Premièrement, on se promène dans tellement d'univers de chansons. On retrouve vraiment les caractéristiques de Jimi Hendrix de l'époque, dont des trucs très bien produits pour l'époque. Je pense que Jimi Hendrix, en plus d'être un guitariste révolutionnaire, ça a été quelqu'un de studio révolutionnaire avec Eddie Kramer, son technicien de son. Et on retrouve aussi des petits solos de guitare fabuleux. Il y a Voodoo Child, une autre slight return, mais le Voodoo Child, la pièce de 17 minutes, qui est comme un grand blues avec Jack Cassidy et plein de monde. Je veux dire, c'est un événement, écouter ça. Là. Ça ne s'écoute pas de même, mais quand tu l'écoutes, c'est tellement un voyage.
Il faut s'investir quand même pour cet album-là, je trouve. Ça ne s'écoute pas Suicide. Il faut s'investir. Il y a des chansons qui sont plus comme ça, mais
oui.
Il y a d'autres chansons qui demandent plus d'investissement. Là.
Surtout, genre, il y a comme la partie du milieu avec Little Miss Summer et ces pièces-là. Là,
ouais.
Et Gypsy Eye, c'est vraiment des tunes plus courtes qui sont excellentes. Après ça, moi, une de mes pièces préférées, c'est la pièce avec l'or que là, j'ai un blanc. Que je cherche, c'est Rainy Day Dream Away.
Parle-moi, ça vient de m'amener.
Qui est comme un bon groove, là, puis ça groove un clog. Là, puis je me souviens, il y avait un. Dans le temps, ben, c'était à MTV, puis ils ont traduit à Musimax, mais c'est comme une série d'émissions qui allaient dans des albums légendaires, puis ils ouvraient les masters, puis ils allaient comme track par track, puis ils parlaient des histoires de studio, puis ils ont fait des albums de Steely Dan comme ça, mais ils ont fait Electric Ladyland, puis rencontré les musiciens qui ont joué sur l'album, tu sais, puis c'est tellement intéressant justement pour ce là. Il avait comme rencontré un organisme, puis il l'avait fait venir pour Voodoo Child, elle a 17 minutes, tu sais, c'est. Il était allé souper, il avait invité du monde, était sûrement bien gelé, puis ils ont jamé, puis c'est ça qu'ils ont mis sur l'album, puis. Même chose avec Voodoo Child, Slight Return, la dernière de l'album.
Qui est beaucoup plus connu. Là.
Qui est clairement un jam. Là, je veux dire, ils ont clairement été en studio, puis ils ont jamé. Puis c'était cool. Puis naturellement, je pense, tant qu'à moi, avec 1983, Mermaid I Should Turn To Be, l'autre légendaire pièce de cet album-là, c'est All Along the Watchtower. Je veux dire,
ben oui.
Qui est génial. On parle d'une pièce avec 4 à 5 solos de guitare avec chacun des émotions différentes. Jimmy, c'était un workaholic. Je pense que la tune Gypsy Eyes, il disait juste une track de git, il l'avait faite 60 fois. Là, je veux dire, c'était. Tu vois qu'il avait travaillé pour cet album-là. Puis pour toutes ces raisons, Electric Ladyland.
Mais je pense que c'est un album aussi qui est symptomatique d'une époque qui a duré peut-être 10 ans, mi-60 à mi-70, là, de l'époque d'or du studio, en studio pendant des mois, qu'on reprend sans arrêt, qu'on expérimente. Ouais. On invite le gars d'à côté à venir faire un solo.
T'sais. Mais malade, là. T'sais.
Je pense à une époque, là. T'sais, et puis aussi les histoires t'sais, de mettre un drum dans les escaliers. Puis toute cette époque-là, t'sais, de tous les mythes associés à ça. Puis on loue une maison pendant 3 mois pour faire un album. Puis j'ai l'impression que les maisons de disques étaient prêtes à mettre autant d'argent imaginable pour que les albums soient produits. Parce qu'il y avait une soif d'expérimentation. Puis une soif de repousser les mythes de la musique dans le pop. T'sais.
Les auditeurs aussi, elles voulaient ça. T'sais.
Ben c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, on est vraiment. T'sais, on parlait tantôt de son léché. On est. C'est comme, pour moi, c'est comme l'opposé de ça. On va en studio, puis le prochain album dont je vais parler est associé à ce mouvement-là aussi. C'est pour ça que c'est intéressant comme mon numéro 3 est associé à ce mouvement-là aussi. Tu sais, comme on prend le temps qu'il faut, on crée l'œuvre qu'on veut, puis si on veut mettre une toune de 15 minutes, qu'il n'y a pas grand-chose dedans, on va le faire parce que c'est ça notre idée. Puis ça se fait plus autant aujourd'hui, puis ça, c'est quelque chose qui me manque parfois. T'sais, ça a créé des albums pourris, puis ça a créé des albums extraordinaires. C'est un risque.
Ça vient avec le risque d'être créatif aussi. Puis juste, petit fait divers, le studio de Jimi Hendrix, ou qui a enregistré Electric Ladyland, donc le Electric Lady à New York, est parti des albums de Steve Wonder de l'époque de Song and Key of Life, était enregistré là. Donc, petit fait divers.
Ben, c'est un studio assez légendaire.
Vraiment. Mais oui. Je suis d'accord avec toi, Phil, pour l'époque et la créativité de cette époque-là.
Mais c'est l'époque studio créatif aussi, au-delà
On découvre, c'est ça qui arrive. Il y a des nouvelles technologies, puis on découvre,
Pink Floyd aussi a participé à ce mouvement-là. Et mon numéro 3, bien entendu, Tago Mago de Can, qui est un album double.
Ouh!
Donc, ceux qui me connaissent savent que je suis un immense fan de Can. Tago Mago, est-ce que c'est mon préféré? Impossible à dire. Pour moi, les trois albums avec Damo, c'est des 10 sur 10. C'est le seul album double des trois, cependant. C'est pour ça que c'est qu'on va parler aujourd'hui. Album qui a changé ma vie d'un point de vue des limites de la musique. Puis je suis en train d'en parler dans le balado, mais. Puis, tu sais, Can faisait ce qu'on vient de parler, tu sais, la chanson
Ah ouais.
Aller loin, c'est comme 18 minutes. C'était un jam de plusieurs heures qui ont. Tu sais, ils ont pris des bouts, puis ils l'ont splicé, là, tu sais, ils l'ont bougé, puis ils ont recollé des bouts ensemble, puis. C'est ça qu'ils faisaient, eux autres. T'sais. Ils faisaient des jams comme ça. Des solos, des expérimentations de sons, tout ça. On enlève 90% pour garder la chanson. C'était leur façon de composer. Puis Tago Mago, c'est comme l'album avant qui spirale vraiment dans le... On loue un studio pendant un an, genre. Là, ils ont fait ça, eux autres. Ils avaient acheté un cinéma abandonné puis pour faire Ange Bamiyazi le d'après. Puis...
Wow.
Tago Mago reste encore avant ça. Mais que dire de cet album-là, j'ai pas déjà dit. Le premier album, le premier CD, le premier disque, on devrait dire, est disons plus accessible, ça reste du Can, c'est pas très accessible, mais quand même plus accessible. Le deuxième a deux chansons qui sont très longues et très expérimentales. Il y a Homme puis Pecking O. Je me sais jamais laquelle des deux, parce que ça se mélange un peu dans ma tête, ces deux chansons-là, parce qu'elles sont vraiment très. C'est des chansons ambiantes. Dark ambient, tout ça. J'ai une anecdote que j'ai. Je sais pas, je l'ai compté sur le balado. On a tellement de choses ici que. Quand j'étais adolescent, on avait un chien dans la famille. Puis j'avais décidé de me faire une écoute active de cet album-là. Mes parents n'étaient pas là. Il y avait un bon système de son dans le salon. Puis je me dis, garde, je me tape cet album-là. Je mets le son vraiment fort. Je m'assois. T'sais,
wow.
Je l'écoute. T'sais. Je fais rien, là. Je l'écoute. T'sais. Puis le chien est avec moi, puis il y a une de ces deux chansons-là qui c'est très. Presque épeurant, là. C'est très angoissant, comme. C'est une ambiance qui est très dark, là. C'est pas gay comme musique, là. C'est très. C'est lourd, puis c'est menaçant. Puis le chien est comme devenu vraiment pas bien. Le son était fort, puis c'était des sons bizarres. Puis, je sais que le chien avait réagi, tu sais. Lui qui réagissait jamais à de la musique, là. Il s'était comme levé, puis il était comme pas lui-même, il se promenait, puis il venait me voir, puis c'est pas pourquoi je raconte cette histoire-là, mais c'est juste la puissance de cette œuvre-là, tu sais, de même les chansons.
Wow, ouais.
Et là, ça finit avec la chanson que tu m'avais présentée il y a de là si longtemps, Bring Me Tea, Bring Me Coffee, ou Bring Me Coffee, Bring Me Tea, je me souviens plus de l'ordre, qui est comme, qui finit l'album de façon super délicate, tout ça. Et qui ont aussi leur son plus iconique, là, la bass et la guitare qui sont comme sur des.
Wow, ouais.
Presque en même temps, pas totalement. Puis il y a eu beaucoup de trucs que j'aime beaucoup de ce groupe-là, leur son. Puis mais voilà, donc l'album au complet, moi je pense que c'est du génie. Je sais que les deux chansons plus expérimentales sont moins faciles à écouter. Je pense à Les Lois, je pense à Mushroom, tu sais, Oh Yeah, que je pense à Paper House, il n'y a pas plus classique que ça. T'écoutes des versions live de ces chansons-là, puis c'est Alléluia live. Moi, j'ai un disque triple que j'avais acheté, qui est toutes les chansons de Can qui n'avaient jamais sorti en CD. Puis c'est complètement capoté, cette affaire-là. Puis il y a une version de live d'Alléluia, c'est une des chansons, c'est les affaires les plus... Ça n'a pas de bon sens, là. Ça n'a pas de bon sens comme improvisation, puis comme son, puis c'est complètement la déchéance musicale. J'imagine les gens qui devaient être là devaient être complètement...
Wow!
C'est de la musique désaxée, là, mais c'est du génie, à mon avis. Bon,
parce que la musique souvent. Décomplexée aussi. Tu foutais un peu du beau, du bon. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est juste de faire une impression. Là, c'est ça qui est cool. Là,
c'était encore dans le mouvement Krautrock de créer un nouveau son aussi. Il y avait une quête de créer de la musique qui n'a jamais été faite. Pour moi, c'était une mission accomplie. Je pense qu'ils ont réussi. Mais voilà. Donc, numéro 3. Tago Mago de Can.
Mais t'es avec Can, surtout, on n'est pas nécessairement des fois dans le rock prog à proprement parler, beaucoup plus dans la performance, puis dans le son, t'es comme la musique actuelle, puis ces affaires-là.
Ouais.
C'est ça qui est cool, t'es rendu là, ça fait partie du rock progressif aussi, on pourra en discuter. Mais j'ai toujours aimé le fait que t'es devenu un fan de Can, puis j'avais juste écouté une toune, puis j'ai dit, hey, t'écouteras ça. Moi, j'en ai pas écouté. Plus que ça. Mais toi, t'as vraiment trippé. J'adore ça. J'adore
c'est vraiment partie de toi qui dit « Hey, check down ça sur YouTube. »
J'adore le fait que quand j'ai réussi, ça doit faire la même chose pour toi aussi, mais quand tu fais découvrir quelque chose à quelqu'un puis la personne accroche, je suis toujours comme « Ah yes, j'ai embelli la vie de cette personne-là. »
Ouais, c'est le fun, ça, c'est vrai, absolument.
Mais en tout cas, excellent album. Je pense que la pochette aussi est tellement légendaire, cet album-là.
Magnifique. J'ai toujours dit que c'est l'image, c'est ce que ton cerveau ressent quand t'écoutes cet album-là.
Genre de trip d'acide bizarre. Là.
C'est comme des nuages colorés dans ta tête. Là. C'est capoté.
Mais qu'est-ce que j'allais dire? Donc,
ton numéro 2?
Mon numéro 2, je pense qu'on a le même. Ça se peut-tu?
Je pense pas.
On parle pas de groupe grec ici?
Non.
Oh my God, Phil, j'ai hâte de savoir pourquoi.
Ben, c'est lui mon peut-être numéro 5. Ça s'est battu entre lui et London Calling.
Alors, moi, c'est 666 d'Alfred Child. Tu sais, tant qu'à moi, pour moi, c'est cet album-là. C'est aussi, je pense, c'est le meilleur album double pour l'idée de l'album. Le deuxième album est une continuité, puis que j'aime autant écouter le deuxième album. Que dire de plus de cet album-là qu'on n'a pas dit sur ce podcast-là? On en a parlé tellement de fois. Tu veux dire, c'est un album tellement, tant qu'à moi, grandiose, de recherche. Un album aussi de chicane. On voit aussi qu'il y a quelque chose de fin. La fin d'un groupe à l'intérieur de cet album-là. Ah, je veux dire, moi, c'est surtout.
Un dernier soupir.
Exactement. Puis, tu sais, on pourrait élaborer longtemps sur les sujets cachés derrière l'album. Mais, tu sais, pour moi, tu sais, je veux dire, tout est pas. C'est un album parfait. Tu sais, puis c'est.
D'accord.
C'est surtout aussi les sons dans l'album qui sont originales. Mm-hmm. Tu sais, peu de gens avaient fait les mélanges sonores, les combinaisons que Vangelis, Papadopoulos, a fait dans cette. Désolé pour le nom, j'ai toujours de la misère à le dire. A fait dans cet album-là. On voit déjà qu'il s'en va après ça vers la musique de film. Mm-hmm. Mais, et voilà, ben, je pense qu'on peut. On a tellement parlé de cet album-là. Mais je serais curieux de savoir pourquoi il n'est pas dans ton top 5, Phil.
Ben, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas dedans. C'est un 10 sur 10 aussi. Fait que,
oui.
C'était, comme je te disais, c'était soit je m'étais lu en numéro 5 ou London Calling. Mais aujourd'hui, c'est sur London Calling que je suis tombé. Mais wow. J'adore cet album-là. Mais tous les albums dans mon top 5, je les aime d'amour infini. Tu comprends? Fait que c'est
pas facile.
C'est rare que j'ai un top 5 aussi, comme unanimement. T'es comme j'adore toutes comme des albums, comme tu as dit toi-même, qui sont dans mes albums préférés de tous les temps, tu sais.
Ben oui.
Mais c'est aussi. Je pense que c'est un des albums concept les plus intéressants aussi, tu sais, le concept de l'Apocalypse selon Saint-Jean, mis en chanson. C'est quand même capoté. Puis c'est tellement bien fait, puis tu le dis toi-même. Moi, cet album-là, je suis tout le temps comme, ah, je pense qu'après ça, c'est celle-là. Puis là, elle passe, ah oui, c'est ça! À chaque fois que j'écoute l'album, je pense qu'après ça, c'est celle où c'est plus. Ça sent de même. Puis là, c'est celle-là que je pensais. Puis je suis là, yes! Ah, si, je l'aime, celle-là. C'est même tout le long. Puis que dire de la chanson All the Seats Were Occupied? Qui est comme une espèce de grand retour sur tout l'album.
Ah, exact. Puis moi, ma préférée, c'est la dernière aussi. Tu sais, je veux dire, c'est côté. C'est la seule chose que le drummer chante. Genre,
c'est... Ouais. C'est un peu absurde, mais c'est superbe.
Ah, et puis t'es les envolées de guitare, là, tu sais, je veux dire, de cet album-là sont légendaires aussi.
Ouais.
L'année 71, man. Je veux dire, ça, c'est fort.
Ah oui. Ça se passait. Ça se passait. Mon numéro 2?
Ton numéro 2, Phil.
Tu sais pas c'est quoi?
Ben, attends un peu. Attends un peu.
Tu sais pas c'est quoi?
Ben, tu sais, il y a le The Lamb Downs on Broadway, mais ça doit être ton numéro 1.
C'est pas mon numéro 2.
Hey man, attends un peu.
Ah, je vais juste te le dire. Parce que là,
Tommy de The Who.
C'est Tommy de The Who, bravo.
Exactement, man.
Bravo, Tommy, qui est pour moi l'opéra rock pop. Tu sais, pas du progressif, admettons, là. Ultime. C'est peut-être ça qui a lancé le genre aussi. Je sais pas trop c'est quoi le premier.
Je pense que oui.
Pour moi, c'est un album parfait. Je l'écoute toujours d'un bout à l'autre. Je l'ai écouté. C'est lui que j'ai écouté le plus souvent dans mon top 5, c'est sûr. Puis je suis pas encore tanné. Ça part, puis je suis encore ébloui par cet album-là. Je pense que c'est du génie. Il y a aucun album de The Who, à mon avis, qui est même proche d'être aussi bon que celui-là. T'sais.
Même pas Who's Next.
Quadrophonia, je les aime beaucoup. Mais c'est pour moi, c'est même pas proche d'être aussi bon que Tommy. Je dis souvent que je suis un gros fan de The Who, mais c'est vraiment à cause de Tommy. Principalement, tu sais, il y a d'autres qui sont bons, les autres, c'est Who's Next, c'est super bon, Quadrophonia, super bon, même for, For Sale, Sell Out, je sais plus. By the Numbers, il y a des bonnes chansons. Il y a plein de bonnes chansons, ok. C'est leur live, Live at Leeds est excellent. Oui, bon. Mais Tommy, pour moi, c'est la quintessence dans le, qui est non progressif de l'histoire d'un personnage qui arrive des choses. L'histoire est intéressante. Ce qui se passe est intéressant. C'est varié. Ça passe vite. Ça passe vite. Ça dure une heure et je sais pas quoi. Ça passe vite. Tellement de chansons iconiques là-dessus. Il y a Pinball Wizard, bien sûr, mais ben au-delà de ça, tu sais. Acid Queen.
L'intro. L'intro.
La superbe introduction. Il y a tellement de belles chansons là-dessus, puis je m'entends pas. Je l'écouterais aujourd'hui, je serais heureux comme jamais. Je
veux dire, et que dire du film aussi, t'es.
Je l'ai écouté qu'une seule fois quand j'étais au secondaire. Ça m'avait pas tant impressionné que ça. Parce que je suis un peu, comme tu sais, je suis un peu puriste des fois. C'est comme, tu sais, c'est Elton John qui chante Pinball Wizard, puis j'adore Elton John.
Il y a Eric Clapton aussi, tu sais, je veux dire, c'est Tina
Turner. Tina Turner qui chante Acid Queen, je pense. Donc c'est cool, mais moi c'était comme pas ça que je m'attendais vraiment de voir. J'avais été un peu comme surpris. Mais c'est le fun qu'il a fait un film quand même. Puis c'est faut dire que Kate Moon qui joue l'oncle pervers. Ça, c'est très important de le dire. Uncle Ernie. En tout cas. Fait que voilà, c'est mon numéro 2, c'est Tommy the Who.
Ah bah c'est un classique. J'avais pas pensé, c'est vrai, mais tu choisiras avec toi, mon fils, je veux dire de quoi qui va te choquer.
Tu l'aimes pas tant que ça?
Ben j'aime cet album-là, mais pour moi, genre le meilleur opéra rock.
Ben.
C'est The Wall, man.
Eh boy!
Je sais que t'es pas d'accord, je sais que t'aimes pas tant cet album-là. Non. Mais c'est surtout, je trouve les sujets de l'album The Wall sont peut-être plus profonds que Tommy. Puis j'aime mieux le film The Wall aussi que Tommy. Mais c'est bon la vie. Mais je comprends, man. Puis je sais que The Who et Tommy ont une importance particulière aussi en lien avec ton père puis en lien avec tout ça.
Ton père aime pas The Who, à vrai dire. C'est pas,
j'ai toujours cru qu'il aimait. Toujours cru qu'il aimait cet album-là.
Non, c'était mon ami John au secondaire.
C'est vrai, aimait. Le bassiste.
C'est lui qui aimait The Who, puis il m'avait envoyé une couple de chansons de cet album-là, puis j'avais trouvé ça bon, puis c'était l'époque où j'achetais des CD beaucoup, puis j'étais juste allé acheter Tommy comme ça. Avec un connaissait comme deux chansons, puis ça m'avait complètement jeté à terre. Là.
Wow.
Il y a une intermission dans l'album aussi, ça j'adore ça, une intermission instrumentale au milieu de l'album, ça c'est tellement cool. En tout cas, assez parlé, mais je suis surpris que The Wall soit pas dans ton top 5, je m'y attendais vraiment. Mais je sais
c'est pas ton numéro 1. Il a failli, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, c'est juste, j'ai choisi Vagaba parce que ça me tentait à ce moment-là, puis j'aime juste le passé. The Wall, c'est vraiment, à part quelques tunes de David Gilmour, tu sais, c'est vraiment comme l'album de Roger Waters, puis j'aimais le fait comme Vagaba, c'est un album de band.
Ouais.
Mais mon numéro 1, tu sais très bien, t'en as parlé tantôt, c'est l'état du groupe Harmonium. C'est ma pochette, je veux dire, qu'on a sur notre logo. Pour moi, c'est le meilleur album de tous les temps, je veux dire. Pas juste parce que c'est québécois, puis je suis un fier québécois, mais pour la musique en général, il y a une perfection dans cet album-là, le son aussi. Pour moi aussi, deux albums avec tellement des émotions différentes. Le premier, c'est des longues pièces qui voyagent beaucoup, mais il y a un côté plus rock par moment. Le deuxième, on est vraiment plus dans l'ambiance avec le corridor, puis après ça, le piano, man, la lumière de vie, puis tout. C'est tellement bon. Et tant qu'à moi, la pièce comme un sage.
Ouais.
On a souvent dit que la plus belle pièce de la francophonie était Quand les hommes vivront d'amour. Mais tant qu'à moi, c'est comme un sage. Les paroles de cette chanson, là, t'es, je veux dire, c'est tellement beau, puis ça s'envole, puis la file de drum, puis là, que Serge Fiori fait « Wouh! » C'est tellement bon. T'sais, je veux dire, je pense que ça a été... je pense le groupe a sûrement pris fin, parce que c'était tellement grand, je veux dire, ce projet-là, c'était fou. Puis je tiens à dire que Harmonium Live aussi, les versions qu'ils font, puis qu'ils jamment là-dessus, c'est excellent aussi. Mais, tu sais, vous dire que dit, j'ai encore une fois pas dit sur cet album-là dans un million d'épisodes qu'on a fait ensemble. Tu sais, je veux dire, c'est du génie, tant qu'à moi, tu sais. Puis, je veux dire, je pouvais pas le mettre numéro un, tu sais, parce que, je veux dire, pour moi, c'est mon album préféré de tous les temps. Donc, mon numéro un, Left Hand. Ah, puis le concept, en fait, c'est les étapes. Non, c'est-tu les étapes dans la journée d'un. En fait, c'est le concept, c'est la journée d'une. d'une personne, si je me souviens bien, mais c'est les sept étapes de la conscience qui sont représentées dans la chanson, dans la musique. Donc, je pense que c'est très métaphorique, là, mais ça crée une belle ligne directrice.
Moi, j'ai une théorie qui dit que le « comme un fou » raconte l'histoire de la matrice.
Oh, wow!
Je pense que la matrice est inspirée de « comme un fou ». J'ai dit ça, allez écouter les paroles, puis passer à la matrice, le premier film, là. Parlez-moi
les...
ça.
Les deux sœurs que je me souviens plus du nom qui ont fait la matrice.
C'est des fans de Leptat, peut-être. Non, je pense pas. Mais c'est drôle de l'écouter avec l'angle de la matrice. Allez voir ça. Moi, je sais peut-être que c'est moi qui capote, mais j'ai l'impression qu'il y a comme un. Il y a quelque chose de qui connecte. Là, mais c'est...
Je comprends.
Oui. Excellent album. Comme un sage. La plus grande chanson dans la francophonie, ça, c'est un gros statement. Ça.
C'est gros statement. C'est toujours pour l'amour qu'on devient fou. Ça doit être plein de fou tout partout. Parce que, ça doit être plein. Je m'en souviens plus, mais bref, cette parole-là, cette phrase-là, là, ça me scie à terre à chaque
fois. C'est très beau. Très belle chanson, t'as raison.
Et toi, mon Phil, ton numéro 1, ça serait quoi?
Ben, c'est The Lamb Lies on Broadway, bien entendu.
Surprise.
Ben, je peux pas mentir à nos fans aussi. Je veux dire, je tiens cette pochette-là sur l'imagette de notre balado. Donc, impossible. Mais. Qu'est-ce que je peux dire que j'ai pas déjà dit? Pour moi, c'est le plus grand album concept de tous les temps. Facilement, là. C'est un que j'étais un peu inquiet d'écouter. J'ai attendu longtemps. J'ai écouté beaucoup Nursery Crime. J'ai écouté beaucoup Selling England by the Pound. Quand même beaucoup Foxtrot aussi. Trespass aussi, on en parle pas assez souvent. J'aime beaucoup.
Mm-hmm.
Et là, qui était cher aussi. Hein. Il était cher. L'Amblazer dans Broadway en CD dans le temps. Je l'ai reçu en cadeau. Puis, je l'ai mis dans... Je l'ai écouté pour la première fois, puis j'avais de l'appréhension. Je vais pas être déçu, mais bon, j'y vais, tu sais. Ce que j'ai vécu, cette première écoute-là, ça a été le voyage d'une vie. C'est, pour moi, vivre cette épopée-là avec Raël, le personnage de l'histoire, c'est... Je sais que les paroles sont bizarres, puis ça s'envole par-ci par-là, puis ça n'a pas trop de sens. Puis je sais que Tony Banks a dit que l'album était pas bon. Puis que...
Ah ben, je pense que c'est en réaction, c'est un album très Gabriel. Là,
oui, puis c'est un album aussi, comme tu as dit un peu pour Leptat, je pense que c'était comme c'est comme l'apex de. À chaque album, on va plus loin dans, dans ce qu'on peut faire. Puis c'est tellement band de pas qui ont fait ça en 74-75, c'est Tales of the Topographic Ocean, de Yes. Il n'est pas dans ton top 5, il n'est pas dans le mien. Je l'aime bien, mais c'est aussi cette thématique de ça. A Passion Play de Jethro Tull. Tu sais, c'est des albums qui sont juste... À chaque album, on va plus loin.
Brain Salad Surgery, les Work, puis tout ça.
On va toujours plus loin dans le l'épique, dans la compliquée, dans les thèmes, dans le si. Puis je trouve qu'il y a des bands qui ont... Ça les a crashés, tu sais. Mais il y en a qui ont bien fait ça. Harmonium a bien fait ça. Genesis a bien fait ça, à mon avis. Et c'est, pour moi, c'est lui qui l'a le mieux fait. T'sais, vraiment, pour moi, c'est comme l'aboutissement de leur son. Puis je dis souvent aux gens que mes chansons préférées de Genesis sont pas sur cet album-là. Mais l'œuvre entière, pour moi, est la plus grandiose qu'ils ont faite, juste de par sa diversité. Puis tu passes par tellement d'émotions, il y a tellement de moments. Des fois, c'est très, très bombastique. Des fois, c'est très ambiant. Puis qu'est-ce que de la finale? La finale, pour moi, c'est à chaque fois que ça me jette par terre, je suis encore surpris du punch de l'histoire. Et il y a des In the Cage, des classiques comme ça, Carpet Crawlers.
L'ouverture de l'album.
Bien sûr, il y a Fly on the Windshield, puis il y a le trio de Super Anesthésiste, de Lamia, puis j'oublie l'autre chanson, mais ces trois-là ensemble, ça, c'est juste, ça n'a pas de bon sens, juste. Je pourrais en parler pendant une heure de plus, mais pour moi, c'est le plus grand album, non seulement de prog, mais aussi d'album double, point. Donc, comme un album double, c'est un épisode qui est quand même long. Donc, on a beaucoup parlé. Merci, chers auditeurs. Je vais parler rapidement d'une mention spéciale. Focus 3. Excellent album du groupe Focus. C'est instrumental. Gros jam, ça groove, excellent. Goodbye Yellow Brick Road. Je sais que toi t'es moins fan, moi j'aime beaucoup.
J'adore les toutes de Yellow Brick Road, mais j'ai toujours trouvé que c'était un album rempli de singles.
Peut-être. Je trouve que le premier disque a beaucoup de lignes directrices, le deuxième un peu moins.
Exact.
C'est 6, bien entendu. J'avais Yeti de Amundul 2. qui, à mon avis, un des grands albums double aussi, aussi dans le krautrock. Et à Mumble 2, on a aussi fait Tanz der Linminge, je sais pas comment prononcer ça, qui est aussi beaucoup plus expérimental, mais très, très, très bon aussi. C'est quelques mentions spéciales que j'avais, mais voilà. Donc,
est-ce qu'il y aurait eu The Epic de Kamasi Washington?
Je sais pas.
J'ai toujours trouvé que c'était un album long et coûtait très cher. Mais c'est mon avis, mais excellent album.
Mais j'ai pas, je connais Washington, mais j'ai jamais écouté un album au complet de lui, je dois l'admettre.
Hey Phil, call it the bin. On l'a fait. Un épisode épique. Mais le prochain sera tout aussi épique parce que ça va être notre 60e épisode.
Ouais. Et on a un concept un peu spécial.
Alors, un épisode concept, donc on voulait rendre hommage à un de nos fans de la première heure, qu'on ne nommera pas, mais qui va avoir 60 ans cet été. Et 60e épisode, 60 ans. Et on sait que c'est un grand fan de Peter Gabriel. Mm-hmm. Et pour l'occasion, on va parler sûrement de, je pense, les critiques vont dire que c'est son plus grand album ou du moins son plus grand succès commercial. On va parler de son album So. Et on va faire un top 5 de nos chansons préférées de Peter Gabriel.
De toute sa discographie.
De toute sa discographie. Donc, en plus, je pense que c'est son dernier tour de piste cette année. Tu vas avoir la chance d'aller le voir.
Absolument.
Oui. Et voilà, ça fait que ben hâte de jaser de ça avec toi, mon Phil.
Ouais, ça va être le fun de replonger. C'est un album que j'aime bien, de ce que je me souviens. Et j'ai oublié de te dire que je vais voir Tool aussi.
Hein? Avec ton frère?
J'ai des billets à Montréal avec mon frère, absolument. D'ailleurs, wow. Faut que je le paye. Faut que je rembourse le billet. Mais oui, on va voir ça, donc ça va être cool. Voilà. Avant de conclure l'épisode, bien entendu, il faut remercier l'unique, le célèbre producteur Danny Gravel. Merci beaucoup encore une fois de votre support infaillible. Un gros merci. Je voulais aussi te parler que un autre de nos Patreons nous a fait remarquer qu'on a oublié quelque chose dans le dernier épisode, dans les comebacks. Et il voulait que je mentionne l'album, et ça c'est très dur à prononcer, Viljandsaga de Anglagard. Ils sont revenus plus tard faire un album.
Là, je savais même pas.
Je l'avais déjà écouté, mais j'ai écouté comme une fois ou deux. C'est très bon, mais je t'invite à aller le regarder. Comme notre auditeur Dominique nous le recommande. Je vais inviter les gens aussi à répondre au sondage. Il est encore disponible. Si vous ne l'avez pas fait, c'est gentil. Il n'y a pas tant de monde qui ont participé. Donc, s'il vous plaît, ça nous aide vraiment à diriger où est-ce qu'on s'en va avec cette affaire-là. On a beaucoup de fun. Énormément de fun. Mais on aimerait ça le faire grandir la communauté. Ça serait vraiment cool. Si vous voulez nous supporter, vous pouvez partager l'épisode avec vos proches, vos amis mélomanes, famille, amis, parentés, voisins, membres du club social. Puis si vous voulez nous supporter un peu plus, vous pouvez participer à notre Patreon. Donc, pour un petit 2$ par mois, vous avez l'épisode 24 heures avant tout le monde. Pour 5$ par mois, vous êtes un producteur, donc on va vous nommer à chaque épisode. Et là, il y a d'autres avantages plus haut que ça. Vous pouvez aller voir sur le site patreon.com/lesgarsduprog. Tout est là. Ça va nous faire plaisir d'honorer nos engagements qu'on a mis là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est tout. Est-ce que je te laisse le mot de la fin, Carl, pour faire changement?
Mais comme toujours, c'est comme Alan Osworld. Ça revient à chaque épisode. Alors, vive le prog!